Ok, l'enregistrement, c'est bon. Donc, on vient de voir la question de l'atteinte au droit à la vie privée. On passe à un deuxième type d'exemple, encore une fois. C'est absolument pas une liste exhaustive, mais c'est pour vous donner quelques exemples de fonctionnement, et notamment sur les problématiques qui sont actuelles. Et la question du cyberharcèlement là-dessus, elle est très intéressante. Alors, on en parle beaucoup de ces hypothèses de cyberharcèlement. Vous connaissez peut-être notamment les hypothèses de raids numériques, c'est-à-dire que alors, ce qu'on appelle les raids numériques, c'est que d'un coup, vous avez un nombre important, un très grand nombre, un très très grand nombre de gens qui vont tomber sur la même personne et envoyer au choix des insultes, des menaces, d'atteinte physique, de mort, de s'en prendre à la famille, etc. Ces comportements-là, ils sont sanctionnés, évidemment, et ils sont sanctionnés de manière particulière maintenant par le code pénal. C'est pas la peine d'avoir le numéro de datation de l'article, hein. C'est l'article 222-33-2-2 à l'alinéa 2 du code pénal, donc on se fiche de la numérotation. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la prise en compte par le législateur du cyberharcèlement aujourd'hui, elle permet de sanctionner des participants à un cyberharcèlement alors même qu'ils n'ont envoyé que quelques messages, un ou deux messages, ça suffit. C'est très intéressant et c'est novateur pour le coup. Normalement, en droit, la caractérisation du harcèlement, elle suppose l'identification d'une répétition. C'est-à-dire, par exemple, un harcèlement moral que vous allez subir au travail, c'est une personne qui va en permanence, régulièrement, de manière insistante, avoir des propos problématiques à votre égard, faire peser une pression problématique à votre égard, etc. Ça peut se produire ici, aujourd'hui. Je prends une tête de Turc, et tous les mercredis matin, je m'amuse à en afficher un que j'ai choisi, que j'aime pas. Évidemment, vous pouvez fort heureusement obtenir une sanction à mon égard. Parce qu'il y a une répétition. Si je m'amuse là à en afficher un parce que je le vois discuter et que ça m'énerve, je suis un peu désagréable, mais je risque pas de sanction. La définition du harcèlement, elle suppose normalement, en principe, une répétition par un même auteur. Avec la prise en compte du cyberharcèlement dans la loi pénale aujourd'hui, on a fait bouger ça. À mon avis, ça pour le coup, c'est très opportun comme intervention législative. On considère en fait que même si vous n'avez pas agi directement de façon répétée, que vous n'avez pas envoyé 50 messages, vous avez pris part à un comportement de masse. Voilà. Vous vous êtes joint à la meute, c'est un peu ça les raids numériques hein, quand même, quand on voit ce qui se passe parfois, c'est un peu ça. J'espère qu'aucun de vous n'a été auteur de ça, j'espère évidemment par ailleurs qu'aucun de vous n'a été victime de ça, mais c'est des situations qui sont susceptibles d'être sanctionnées. Maintenant, il y a même des dispositions spéciales dans le code de l'éducation pour encadrer quand ça se passe dans un collège, dans un lycée, etc. Éventuellement dans une école, même si c'est terrifiant que ça puisse se produire si jeune, mais il y a des dispositions spécifiques aussi dans le code de l'éducation. Donc vous voyez ce qui change, c'est que du coup, quand on est sur une hypothèse de cyberharcèlement, donc de harcèlement en ligne, numérique, on n'exigera plus de l'auteur du harcèlement une répétition. Il suffit que ces messages s'inscrivent dans un cadre plus général où tout le monde a participé au jeu d'aller harceler. Et si vous en faites partie et qu'on vous tombe dessus, vous risquez une sanction quand bien même ces 2-3 messages. Ce qui me permet aussi de vous dire, avant de parler d'une autre question particulière, mais qui me semble aujourd'hui décisive à envisager avec vous tout de suite en première année, un truc particulier, c'est qu'on croit souvent, et parfois ça c'est écrit parce que les gens qui se prononcent dans la presse généraliste ne comprennent rien au droit du numérique, et cette idée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est un truc qu'on adore dire. Alors d'abord, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'anonymat en ligne, c'est un pseudonymat, déjà. Éventuellement, vous avancez sous pseudo, mais ce n'est pas un anonymat au sens strict. Ensuite, ce pseudonymat, il n'est que de façade. Ne croyez jamais qu'il y a un anonymat total en ligne, ça n'existe pas. On vous repère grâce à vos adresses IP, qui sont en fait les adresses émises Une adresse IP, c'est un peu comme une domiciliation numérique, en fait, un élément d'identification numérique, on vous repère. Et pour les petits malins qui utilisent des VPN qui permettent de générer des adresses IP tournantes, les services de police de l'État ont les capacités de vous repérer avec vos VPN et de remonter jusqu'à vous. Voilà. Donc, l'anonymat, la couverture absolue en ligne, qui parfois génère ce type de comportement, hein. C'est-à-dire que ce que certains écrivent dans des commentaires, dans des réponses, dans des tweets, etc., le dirait jamais dans la vie réelle, physique. Mais parfois, sur certaines personnalités un peu particulières, ça donne des ailes, cette illusion du pseudonymat ou de l'anonymat. Ça n'existe pas. Voilà. On vous retrouve. Vous n'êtes pas plus malin quand vous utilisez un VPN que les services qui sont spécialisés en cybersécurité en IT et qui ont les capacités de vous retrouver. Donc laissez tomber cette idée de je ne suis pas identifiable en ligne. Si, si, toujours. Aucun problème. Ça se fait techniquement maintenant de manière extrêmement simple. Cette question du cyberharcèlement, elle me permet de vous parler d'un autre point que je trouve pas inintéressant ici, surtout dans le contexte. On a parlé de l'affaire Mazan il y a quelques jours, etc. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'affaire Mazan, ce dont je vais vous parler là. Mais il y a une notion à l'intérieur qui est intéressante parce qu'on en parle beaucoup. C'est la question de ce qu'on appelle le revenge porn. En gros, je schématise. Vous allez avoir des publications... Pardon messieurs, mais 9 fois sur 10 sur les enquêtes, je crois que ça démontre que c'est 93% des victimes qui sont de genre féminin. La diffusion publique de contenus vidéo, photo, audio, le cas échéant, qui relèvent de votre intimité sexuelle. Et on appelle ça du revenge porn parce qu'au départ, on a encadré ça par la loi de 2016 parce que commençait à se développer un truc où, après une séparation, celui qui, généralement, avait été quitté, balançait les fichiers en ligne pour se venger. Voilà. Et ça m'amène à... Alors vraiment, ça me fait pas marrer du tout. Et si ça vous fait rigoler, posez-vous des questions sur la légitimité que vous avez à devenir des juristes. Je sais pas, hein. Et j'espère pour le coup que dans l'amphi, on n'a pas de victime de ça. Mais vraiment, ça n'a rien de rigolo. Donc, là où c'est essentiel, donc évidemment, on protège, je vous dis, depuis 2016, on a un texte spécifique pour encadrer la sanction du revenge porn, qui sanctionne donc évidemment la diffusion, la publication de ces contenus-là, audio, photo, vidéo, etc. Ce qui est mal compris souvent par les victimes et qui est très problématique dans la poursuite d'actes qui relèvent du revenge porn, c'est la notion de consentement dont on parle beaucoup. Parce que le texte vous dit la diffusion non consentie d'images à caractère sexuel par quelqu'un qui détenait ces images, ces vidéos, etc. Et parfois, la victime du revenge porn se dit « Mais moi, j'étais d'accord pour prendre la photo, pour qu'on se filme, etc. » Potentiellement, c'est vous qui avez envoyé la photo. Parce que vous étiez dans une relation, vous aviez envie d'envoyer une photo, ça relève de votre intimité la plus profonde, personne n'a à intervenir là-dedans. Et donc vous vous dites, mais en fait j'ai consenti, j'étais d'accord pour la photo, j'étais d'accord pour la vidéo, etc. C'est la diffusion qui n'est pas consentie, pas la captation. Que vous ayez consenti à une captation ne veut pas dire que vous avez consenti à une diffusion. Ce qui est sanctionné, c'est la diffusion non consentie. Donc il faut faire attention à l'endroit auquel vous placez le curseur du consentement. Vous pouvez parfaitement avoir consenti à la captation de l'image, de la vidéo, de l'audio, peu importe, voire vous pouvez être à l'origine de la captation, mais c'est une captation que vous aviez réalisée à des fins privées, exclusivement, et que vous avez envoyée à votre partenaire, peu importe. Si ce contenu-là, qui n'avait vocation qu'à être privé pour des raisons qui ne regardent que vous, est diffusé, on ne pourra jamais vous opposer le consentement que vous avez émis à la captation. Ça n'a rien à voir. Ce qui est sanctionné, c'est le fait qu'on ait diffusé sans votre accord, et donc c'est la diffusion qui compte. un contenu à caractère sexuel. Donc je laisse ça de côté, mais c'est pour vous expliquer. Et encore une fois, la notion de consentement aujourd'hui, elle est très débattue sur plein d'autres problématiques qu'on n'a pas le temps d'évoquer maintenant, mais ça me semblait important de vous l'expliquer ici, en croisant les doigts évidemment pour que ce soit arrivé à personne dans l'amphi, mais d'avoir les clés de compréhension aussi. Autre exemple d'atteinte à l'intégrité, ça me permet de rebasculer sur le droit d'auteur, où je vous ai dit c'est le seul droit de la personnalité qui subsiste après la disparition de l'auteur. Les atteintes au droit moral, on en a déjà parlé, vous vous souvenez quand on avait vu Klassen, je vous avais expliqué ce que c'était que le droit moral, la protection de l'œuvre, etc. Il y a plein d'affaires qui vont venir protéger le droit moral de l'auteur, et dans ce droit moral de l'auteur, vous avez notamment la protection de l'intégrité de l'œuvre. Je vous avais donné l'exemple de Stromae ou pas ? Non ? Il n'y a pas eu de contentieux, hein, ce qui est étonnant, mais tout le monde le connaît. Vous n'êtes pas trop jeune pour ne pas connaître Stromae, quand même, tout le monde le connaît. Ben non, mais... Pierre Palmade, la semaine dernière, ça m'a fichu un coup, quand même. Donc, il n'y a pas eu de contentieux, mais ça aurait donné lieu à un boulevard en termes de contentieux. Est-ce que tout le monde connaît la chanson « Papa où t'es » de Stromae ? Donc c'est une chanson parce qu'il a perdu son père dans un contexte absolument tragique de guerre, etc. Et où il exprime la difficulté de l'absence de père. Cette chanson-là, elle a été utilisée à l'époque des manifs pour tous, pour s'opposer au mariage homosexuel. C'est-à-dire que quand il défilait pour dire « il faut un papa, une maman, au secours les couples homosexuels », il diffusait la chanson « Papa où t'es » en lui donnant donc un sens complètement différent qui est « j'ai deux mamans, où est mon papa ?» qui n'est, voilà, qui n'est évidemment pas le sens de la chanson de l'auteur. Il n'a pas agi pour des raisons qui lui appartiennent, il n'y a évidemment pas d'obligation d'action, mais s'il avait agi là, l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre, elle était caractérisée sans aucune difficulté. Son œuvre porte un message, qui est un message relativement fort en plus sur cette chanson-là, et ce message est détourné, a fortiori à des fins politiques, puisqu'encore une fois, c'était des manifestations pour s'opposer aux adoptions homosexuelles et toutes ces problématiques-là. Incontestablement, le message est détourné de l'œuvre originaire. Ce détournement porte une atteinte évidente à l'intégrité première de son œuvre. Sur le terrain du droit moral, il gagnait sans aucune difficulté, y compris si on mettait en œuvre la balance des intérêts. Là, ça ne... Enfin, c'est ce que je vous dis à chaque fois, on n'est jamais sûr à 100%, mais là, on était sûr à peu près à 98% que l'atteinte aurait pu être caractérisée. Donc, c'est un exemple d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre qu'on peut donner pour voir le type de protection qui est assuré. Attention! Le droit moral, parfois, ça donne lieu à des contentieux un peu bizarres. Le droit moral est, comme tous les autres droits extra-patrimoniaux, indisponible. Je vous ai expliqué, ça veut dire en dehors du commerce, vous ne pouvez pas en disposer, donc vous ne pouvez pas le céder par contrat. Est-ce que tout le monde connaît la chanson « On va s'aimer » ? Quand même. Cette chanson-là, elle a été écrite par... Gilbert Montagnier et Didier Barbelivien, qui n'est pas interprète, mais qui est co-auteur de la chanson. Ils ont cédé leurs droits à Universal. Donc le titulaire des droits patrimoniaux sur la chanson, c'était Universal. Et Universal a accepté, dans les années 2000, là peut-être que vous êtes trop jeune pour connaître ça, mais en même temps on l'a entendu tout le temps, a accepté de céder les droits sur la chanson pour une campagne de pub, et ça avait donné « On va fluncher ». Certains l'ont, ceux qui ne l'ont pas, vous irez sur YouTube, je suis à peu près sûre que vous la trouvez. Il y a eu un contrat de cession, c'est dans les clous. Universal était titulaire des droits, ça a été cédé pour pouvoir utiliser la musique, etc. Les auteurs sont intervenus en disant « Vous êtes bien gentil, mais moi, mon droit moral, il est toujours attaché à ma personne. Je n'ai pas pu le céder parce qu'il est indisponible et l'utilisation que vous avez faite de ma chanson ne me convient pas du tout. » Et la boîte de com a été sanctionnée sur le terrain du droit moral. Parfois, il faut faire attention, c'est pour ça que je vous en parle ici, pour vous donner un exemple des conséquences de l'indisponibilité du droit. Le contrat on vous enseignera en L2, et c'est vrai très souvent, le contrat est un outil de protection, de sécurisation d'une situation juridique, d'anticipation, vous prévoyez la situation, mais il a ses limites. Si le contenu du contrat est appelé à mettre en œuvre aussi des prérogatives extra-patrimoniales, on va pouvoir vous dire derrière, vous êtes bien gentil, mais moi, en fait, mon droit extra-patrimonial, il a été atteint là, et par définition, il ne peut pas faire l'objet du contrat puisqu'il est indisponible. Donc je vais agir et je vais gagner. Il y a d'autres exemples hein, sur la question du droit d'auteur. Après, je passe à la dernière hypothèse, mais c'est intéressant aussi là-dessus, y compris quand c'est vous-même en tant qu'auteur qui avez conclu le contrat. Les hypothèses notamment d'écrivains fantômes, ce qu'on appelle les ghostwriters, c'est-à-dire en gros, je ne sais pas, Nabila, elle a publié un livre ou des personnes comme ça, il y a des bouquins. Ouais. Bon, si, il y en a qui ont lu le livre de Nabila. Bref, je ne préjuge pas, et l'idée ici, c'est pas pour le coup de me moquer, mais disons que des influenceurs, quelqu'un comme Ribéry qui sort un bouquin de 200 pages, etc., il y a fort à parier qu'il ait été accompagné dans l'écriture, on va dire ça comme ça. Et que donc, à minima, ce soit pas une œuvre à auteur unique, mais ce soit une œuvre à co-auteur. Voilà. Très souvent, ce co-auteur-là n'est pas mentionné. C'est-à-dire que le bouquin va sortir sous le nom de la personne publique qui est à l'origine du livre, qui raconte sa vie, ses chiens, ses chats, etc. C'est une atteinte au droit de paternité. Le droit de paternité, il vous permet d'être reconnu en tant qu'auteur. Alors, vous avez conclu un contrat avec la maison d'édition, avec le co-auteur, etc. Mais si demain, vous décidez de lever l'anonymat, vous pouvez le faire. Le contrat n'engage pas le droit de paternité, il ne peut pas le faire. Ce qu'on appelle les clauses abdicatives au droit de paternité, c'est-à-dire les clauses qui vous font renoncer au droit de paternité dans un contrat, sont nulles. Vous ne pouvez pas disposer d'un droit qui est indisponible. Voilà. J'arrête avec cet exemple-là. Je passe au dernier exemple qui est, pour le coup, sur l'hypothèse de l'intégrité physique. Alors, pardon, on a beaucoup de trucs un peu particuliers aujourd'hui, mais c'est pour vous donner des exemples aussi de, parfois, la difficulté à mettre en balance et des exercices de pesée auxquels doivent se livrer les juges aussi. Vous avez un certain nombre de cas frontières, on va dire ça comme ça, et où du coup la mise en balance des intérêts, elle s'impose comme une nécessité presque absolue. Je prends l'exemple à dessein d'un truc pas particulier à évoquer un mercredi matin en amphi, mais qui donne bien qui illustre bien la difficulté. La question du sadomasochisme, je ne l'évoque pas comme ça, hein. On a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question, en 2005, qui est un arrêt du 17 février 2005, contre l'État belge, pour le coup. Peu importe, sachez juste que c'est un arrêt de la CEDH en 2005. Vous aviez, je résume les faits, je ne rentre pas dans les détails, vous aviez un magistrat et un médecin qui se livraient avec un certain nombre d'autres personnes à des actes de sadomasochisme, notamment à l'égard de l'épouse du médecin, qui elle donc avait une approche plutôt masochiste de sa sexualité, et les autres une approche plutôt sadique. L'arrêt n'est pas évident à lire, hein, je vous le déconseille, sauf à être vraiment armé et à s'orienter vers problématique de pénal derrière, sinon vous pouvez vous l'épargner sans aucune difficulté. Je rentre pas dans le détail ici. Il faut simplement savoir que les actes étaient d'une violence telle que les clubs spécialisés leur refusaient l'accès et qu'ils étaient obligés de louer des salles spéciales pour aménager leurs activités. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce qui se passait. Il y a eu une enquête. Pendant l'instruction, il y a des cassettes vidéo. On est sur des faits qui sont à la fin des années 90, début des années 2000. Hein. Donc on a des cassettes vidéo qui sont saisies, qui démontrent, qui exposent les faits qui se sont déroulés. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une atteinte à la dignité humaine ? Oui, incontestablement. De ce qui est décrit dans l'arrêt, ce qu'a subi l'épouse est une atteinte à la dignité humaine sans la moindre question. Mais elle est consentie. Il y a une liberté fondamentale qui est une liberté sexuelle. L'autonomie de la volonté permet de choisir sa pratique sexuelle, y compris dans un cadre comme ça, où la pratique sexuelle se heurte à des actes de torture et de barbarie, si je résume un peu les faits de l'espèce. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous faites primer la liberté de disposer de son propre corps, et donc de s'adonner aux actes que vous souhaitez ? Ou est-ce que vous faites primer l'atteinte à la dignité humaine ? Et dans ce cas-là, vous voyez là où c'est complexe, c'est pour ça qu'au-delà des faits, c'est très intéressant juridiquement. Si vous faites primer la dignité humaine, vous protégez la personne malgré elle, contre sa volonté. Et la balance des intérêts qui a été faite là par la Cour est très intéressante. Alors c'est un arrêt qui a été extrêmement débattu en doctrine. Il y a une part de la doctrine qui trouve que la décision est éminemment problématique. Elle est de 2005, elle a presque 20 ans, je ne suis pas complètement sûre que la Cour européenne des droits de l'homme trancherait pareil aujourd'hui, mais en 2005, la Cour européenne des droits de l'homme confirme que c'est légitime de sanctionner les auteurs des pratiques sadiques, là, dans l'espèce. Pourquoi ? Je suis désolée pour l'énoncé des faits, mais c'est pour vous expliquer le fait qu'en fait, elle ne condamne pas tant que ça. Parce que sur une vidéo, donc, il s'était mis d'accord sur un terme à énoncer quand on voulait que la pratique s'arrête. Ça se passe dans ces cas-là. Le terme en question, c'était « pitié ». Elle le dit à plusieurs reprises sur une vidéo et ils poursuivent. Mais donc là, en fait, la question ne se pose plus. Il n'y a plus là de consentement. En énonçant ce terme-là, elle a mis un terme au consentement. Et en poursuivant, là, ils sont susceptibles d'être sanctionnés. Mais donc, si je fais une lecture à contrario de la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les autres hypothèses qui sont sur les cassettes, les pratiques, etc., ne sont pas sanctionnables. Parce que là, dans la balance des intérêts qu'elle fait, c'est la liberté de disposer de son propre corps qui va primer sur la protection de l'atteinte. Alors, je vous dis, je n'ai pas du tout la prétention de dénoncer la bonne solution. Du tout. Je vous dis simplement les deux écoles qu'il y a eu, les deux types d'analyse qu'il y a eu de cette décision-là. Vous avez une frange de la doctrine qui a été vent debout, en disant, en fait, implicitement, effectivement, elle reconnaît que ce qui prime, c'est la liberté de disposer de son corps, et donc on ne protège pas la personne dans son intégrité physique, en disant que finalement, dès lors qu'elle le décide, on peut lui faire subir à peu près ce qu'on veut. Et il y a une frange de la doctrine qui est particulièrement dérangée par cette lecture-là, ce qui est tout à fait audible. Il y a une autre frange de la doctrine qui vous dit, en fait, en faisant ça, elle ne limite pas la liberté individuelle de choix des individus. L'individu a son autonomie propre, y compris sur le plan sexuel, et dès lors que le consentement, c'est pour ça que je vous dis, c'est une notion clé que vous retrouverez vraiment partout, la notion de consentement, elle va être au cœur de votre apprentissage. Dès lors que le consentement existe, alors la balance se fait dans le sens de la primauté à la liberté de disposer de son propre corps. Ensuite, quand le consentement disparaît, il n'y a même plus de balance. Là, elle n'exerce plus sa liberté de disposer de son propre corps. Une fois qu'elle a dit stop et que ça continue, elle n'a plus de liberté à exercer. Donc, il n'y a plus de balance. Il y a juste une atteinte parce qu'évidemment, il n'y a plus de consentement. Mais dès lors qu'il y a une balance à opérer, pour la Cour européenne, en 2005, encore une fois, les débats sur ces problématiques-là font que peut-être aujourd'hui la solution serait différente, je ne suis pas absolument certaine non plus, mais peut-être. En tout cas, là, elle vous dit, entre deux libertés, le consentement est la clé, et dès lors que c'est consenti, alors la libre disposition de son propre corps l'emporte sur l'atteinte à la dignité humaine. Vous en penserez ce que vous voulez, je voulais juste vous délivrer l'analyse, qui est une analyse juridique, et c'est un cas qui me semble extrêmement intéressant parce que ça pose une question plus large de est-ce que les droits fondamentaux sont là pour nous protéger malgré nous ? Parfois, oui. Voilà. Parfois, on est protégé malgré nous, indépendamment de notre volonté. Quand on dit que le droit est indisponible, ça veut dire que si moi, je voulais me faire beaucoup d'argent en vous vendant ma vie privée, ben, on m'empêche de le faire. Le droit m'empêche de le faire en rendant mon droit indisponible. quelque part, je suis limitée. Est-ce qu'il faut étendre ces limites ou pas? C'est une des problématiques qui se posait dans l'affaire qui a mené à la décision de 2005, et ça me paraissait intéressant de l'évoquer. Un dernier point, et j'en termine sur le chapitre 2. Je ne l'ai pas mis sur la slide, mais j'en ai parlé tout à l'heure, et du coup, ça trotte dans la tête, et ça m'énerve de vous avoir donné la piste sans vous expliquer. Je vous ai dit en introduction, les droits extra-patrimoniaux, pardon, représentent pas une valeur pécuniaire, c'est un autre type de valeur qui est protégé dans les droits extra-patrimoniaux, et il n'y a pas lieu de leur donner une valeur économique à ces droits-là. Et c'est pas vrai pour tous les droits extra-patrimoniaux. Il y a un droit, notamment, où il y a un phénomène de ce qu'on appelle une patrimonialisation d'un droit extra-patrimonial, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus un droit à valeur économique. Et pour le coup, vous qui êtes une génération immergée dans les réseaux, etc., ça ne va pas tellement vous surprendre. C'est le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est un droit extra-patrimonial. Votre image est protégée, on ne peut pas représenter votre image sans votre consentement, sauf cas particulier où vous vous trouviez sur un événement d'actualité, etc. Mais je ne peux pas, moi, lancer un site en mettant vos photos à tous et en disant, voilà, ça c'est des étudiants de L1 et je reproduis votre image, je ne peux pas le faire. Vous avez un droit sur votre propre image. Ce droit-là se range dans la catégorie des droits de la personnalité et donc dans la catégorie des droits extra-patrimoniaux. Ok. Sauf que ça fait des années qu'il y a plein de personnes qui font commerce de leur image. Alors, évidemment, il y a la question des mannequins. C'est votre job. Voilà. Vous patrimonialisez votre image. Vous lui donnez une valeur économique. Et selon que vous allez prendre un mannequin qui débute ou le top du top des stars aujourd'hui, ça ne va pas vous coûter la même chose. Et il n'y a pas que les mannequins. Et c'est pour ça que je vous dis que là-dessus, votre génération est sans doute encore plus sensible à ça que les générations précédentes. Aujourd'hui, la patrimonialisation de l'image, elle existe tout le temps. Tout le temps. Le concept, alors, qui devient de plus en plus encadré en droit, mais qui est quand même un concept émergent d'influenceur, c'est ça. Et ça pose d'ailleurs parfois des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder, que vous verrez peut-être en droit des personnes, mais qui sont aussi des questions... Alors, je ne veux pas rentrer dans un jugement moral, encore une fois, ce n'est pas mon rôle. Et j'ai rien à dire là-dessus. Mais ça amène souvent à l'exposition des enfants. Très souvent, ces influenceurs-là, ils vous balancent les contenus privés de leurs enfants dans tous les sens. Vous savez comment ils s'appellent, à quel moment ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont rentrés à l'école, comment est-ce qu'il est tombé de vélo. La totale. Ça pose la question du consentement quand même. On y revient toujours. Que eux aient envie de mettre en scène leur vie sur les réseaux, c'est une expression de son consentement personnel, pourquoi pas ? L'enfant de 4 ans qui est représenté sur les toilettes et qui va, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, se ramasser ça au collège, au lycée, parfois quand les parents bénéficieront d'une célébrité moindre et donc quand ce sera un peu retombé, etc. Je ne suis pas sûre que ça annonce des années extrêmement rigolotes pour les enfants concernés. Hein. C'est pas gagné du tout. Il y a des problématiques sous-jacentes à ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, ça me paraît extrêmement compliqué de dire que l'image d'une personne, en tout cas de certaines personnes, est en dehors du patrimoine. Il y a plein de personnes qui ont construit leur patrimoine entier, le contenu positif de leur patrimoine, sur leur image. Et parfois, ça va extrêmement loin. Donc, en théorie, le droit à l'image, il se classe dans les droits extra-patrimoniaux. En pratique, c'est très compliqué. Et ça génère d'autres questions. Vous avez dû passer tout ce truc-là. C'est Booba, je crois, qui est parti en guerre contre... Ouais, c'est ça. Je suis un peu au fait, hein, si ce n'est que c'est beaucoup plus ma génération que la vôtre, mais... Parti en guerre contre les influenceurs. Cette exposition de soi, elle pose des problèmes en termes de droit à l'image, mais pas seulement. Elle pose des problèmes en termes de droit de la conso aussi. Ils vous abreuvent de contenu, de story, de machin, etc. Et au milieu... Ils vous vendent des produits. Sauf que comme c'est dans un flot de trucs, vous êtes absolument convaincu que
n'importe quelle personne de la télé-réalité, elle a, j'en sais rien moi, des lèvres qui ont quadruplé de volume parce qu'elle a utilisé le baume miracle. On sait absolument tout ce que c'est de la chirurgie esthétique, mais elle vous vend le baume miracle en vous disant « Et vous, comme vous êtes... » Alors je dis « vous », pas « vous, vous », mais un public jeune, parce que c'est ça qui est problématique aussi. Sensible, vulnérable éventuellement, etc. se dit « Tiens, ça marche ce truc, j'achète. Ça vient d'AliExpress, c'est du dropshipping 9 fois sur 10. » Mais ils construisent leur carrière là-dessus. En droit de la conso, cette patrimonialisation de l'image, elle pose un problème. Ça s'appelle de la publicité mensongère. Hein. Alors, ça s'appelle de la publicité masquée, parce que normalement, et vous l'avez vu, hein, y en a de plus en plus qui s'y collent du coup. Hein, y en a quelques-uns qui ont pris des amendes, ça a calmé tout le monde. Ils vous affichent, ils sont obligés de vous afficher communication commerciale, ceci est un partenariat, ils le tournent comme ils veulent, etc. C'est de la pub, ils sont payés pour ça. 9 fois sur 10, ils n'utilisent pas les thés à la menthe et les machins et les gourdes magiques et les qui vous vendent. Mais sur un public vulnérable, ça marche. Et l'influence exercée est problématique sur d'autres champs du droit, y compris le droit de la conso, mais y compris le droit boursier. Hein. Alors, vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître ce truc-là. Kylie Jenner, tout le monde connaît Kylie Jenner. Il y a quelques années, il faudrait que je vous retrouverai l'année, on s'en fiche, c'était il y a 2-3 ans. Elle s'est levée un matin et elle a fait un tweet en disant « C'est moi ou Snapchat, ça devient nul en fait ?» Ce tweet-là a fait s'effondrer les actions de Snapchat dans la journée. Quand on parle de la notion d'influenceur, alors elle, c'est une catégorie à part, hein. C'est le top du top des influenceurs. Mais elle est capable, en un tweet, Alors, ça s'est rétabli parce qu'en fait, les dirigeants de Snapchat l'ont contacté en urgence en disant qu'il faut faire l'équivalent d'un démenti. Et elle a retweeté en disant « j'ai été un peu rude ». Et l'action est repartie. Alors, ça pose des questions quand même sur l'autonomie personnelle des utilisateurs. Hein, en fait, si elle trouve ça bien, on s'en sert. Si elle trouve ça nul, je désinstalle. Ça, c'est un autre débat qui échappe au sens du droit, mais c'est pour vous donner une idée de... Alors, pardon pour la redondance des termes, mais pour l'influence exercée par les influenceurs. Vous pouvez faire s'écrouler des empires comme ça. Parce que vous vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit « Bon, finalement, je suis plus si convaincu que ça. » Alors, il y a peu de personnes qui ont ce poids-là qui peut générer ça, mais... C'est une question qui se pose. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'image, en tout cas dans un certain nombre de cas, a une valeur patrimoniale, au point d'être encadrée par des règles spéciales. Et je vous dis, typiquement, il y a de plus en plus de règles de droit qui viennent encadrer le statut de l'influenceur. C'est une notion qu'on ne connaissait pas en droit il y a 5-6 ans. Hein. Alors, on avait identifié des problématiques, mais... On n'avait aucune règle de droit spécifique aux influenceurs. C'est entre guillemets un nouveau métier. Et donc le droit ne s'était pas encore saisi de ces questions-là. Vous avez maintenant des dispositions qui émergent pour encadrer les activités, pour poser un certain nombre d'obligations à la charge de ces influenceurs. Mais très clairement, en quelque sorte, alors c'était déjà le cas pour le statut des mannequins, mais dès lors qu'on accepte cette reconnaissance du statut, bon, le caractère patrimonialisé du droit à l'image, il pose plus tellement de questions. Et on a pris l'exemple des mannequins et des influenceurs, mais c'est pareil sur les joueurs de foot, c'est pareil. Autant vous dire que dans une campagne de pub, mon image à moi et l'image de Cristiano Ronaldo, elle ne vaut pas la même chose. Voilà. Donc ce n'est pas un droit extra-patrimonial réellement. Il y a une valeur économique qui y est assortie. Voilà. En fonction des faits de l'espèce, de la célébrité, de la popularité, ce qui est différent d'une personne, etc., son droit à l'image sera doté d'une valeur plus ou moins importante sur le terrain économique. Certains vont pouvoir tirer profit de leur image, d'autres non. C'est bien qu'en fait, on continue à le classer dans les droits extra-patrimoniaux parce que pour d'autres hypothèses, il est légitime à demeurer là,
Mais dans l'absolu, ça fait bien longtemps que ça n'est plus un droit extra-patrimonial. En tout cas, pas complètement un droit extra-patrimonial. J'en termine là avec la catégorie de la classification, avec le chapitre, pardon, de la classification de l'ordonnancement. Des droits subjectifs, c'est des notions que vous retrouverez en permanence. Voilà. La classification, la dualité entre patrimoniaux et extra-patrimoniaux, c'est une classification qu'il faut absolument conserver parce que c'est une classification que vous allez retrouver tout le temps. Voilà. Dans à peu près toutes les matières, vous évoquerez ces problématiques-là. Une fois qu'on a évoqué et qu'on a traité ces questions de classification, il nous reste deux questions, la question des sources et la question des droits subjectifs. Sur trois cours restants là à venir, sachant que, ouais, c'est passé très, enfin pour moi c'est passé très vite. Sachant que je vous ai dit, je pense que le cours s'achèvera sur l'avant-dernier. L'avant-dernier qui est donc, attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que je fais un planning avec vous du coup. Donc là, c'est le cours 8. On a le cours 9 le 16 octobre, le cours 10 le 23 octobre, le cours magistral en l'état, je pense qu'on le terminera sur le cours 10. Peut-être avec un peu d'avance, on verra. Ensuite, vous avez une semaine de vacances. Et on a notre cours 11 à la rentrée des vacances le 6 novembre. Ce que je vous conseille, moi, pour que ça vous soit profitable, c'est de reprendre l'intégralité du cours pendant les vacances. Je ne suis pas ravie de vous faire bosser pendant les vacances, prenez un peu de temps pour souffler aussi, mais relisez-le au moins. Et vous notez les questions que vous avez sur le cours. Et le cours du 6, vous aurez eu l'intégralité du cours de magistral, une semaine de vacances pour revenir du dessus. Le cours du 6, je prends l'ensemble des questions et on revient sur tous les points. Éventuellement, moi, je ne suis pas contre ça si vous pensez que ça peut être fait. Mais ça, il faut vous mettre d'accord entre vous sur le groupe WhatsApp parce que m'envoyez pas 250 mails. Hein. Ça, je ne pourrais pas les traiter, j'aurais pas le temps. Par contre, si vous vous mettez d'accord entre vous sur des points essentiels que la majorité veut revoir et qu'une des quatre ambassadrices que j'ai à qui j'envoie les fichiers se dévoue pour m'envoyer les questions en amont, on peut refaire. Voir si vous avez besoin que je vous fasse des schémas sur certains trucs. Alors, si j'ai le temps, hein. Mais si j'ai le temps de voir des schémas, des nouvelles slides sur certains points, vous vous mettez d'accord entre vous. D'ici au cours du 6, alors ne me l'envoyez pas le 4 ou le 5, hein, parce que là, ça ne sert à rien. Mais un peu en amont du cours du 6, vous vous mettez d'accord, ce qui n'empêchera pas les questions spontanées, évidemment, on aura 3 heures. Hein. On a le temps de traiter un certain nombre de trucs quand même. Sur les points où vous sentez que ça vacille un peu, et on revient dessus sur le dernier cours, si ça vous convient. Donc, je vous disais, il nous reste en fait là. Je vais faire l'intro du chapitre et on s'arrête. Il nous reste deux chapitres. Les sources, l'application. On va donc attaquer l'avant-dernier chapitre du cours. Sur la question des sources, ça fait l'objet d'un chapitre 3. Je vérifie juste que ça enregistre toujours. Ouais, c'est bon. Vous vous souvenez, dans le droit objectif, on a vu les sources du droit objectif. Et quand on avait vu les sources du droit objectif, on s'était dit d'où viennent les règles de droit. C'est ça la question qu'on se pose, en fait, quand on fait les sources du droit objectif. D'où émane la règle de droit ? Du législateur, du Parlement, du bloc de constitutionnalité, de traité, etc. Là, c'est la même question, mais relativement au droit subjectif. D'où viennent les droits qui me sont accordés. Comment se produit la naissance du droit subjectif? Dans quelles circonstances peut naître le droit subjectif? La question va se poser essentiellement pour les droits patrimoniaux. Pourquoi? Parce que les droits extra-patrimoniaux, ils naissent avec vous. Je peux apporter une réponse. Comment naît le droit extra-patrimonial? Avec la personne.
comment disparaît le droit extramatrimonial avec la personne. Ou de manière automatique, à ses 18 ans pour le droit de vote, quand il devient parent pour l'autorité parentale, etc. Mais il n'y a rien d'autre. C'est la loi qui précise, qui prévoit que si tel événement se présente, la naissance pour l'essentiel des droits extramatrimoniaux, la majorité pour le droit de vote, la parentalité pour l'autorité parentale, alors automatiquement, le droit extramatrimonial naît. Donc sur les droits extra-patrimoniaux, on n'a pas de question à se poser, on le sait, voilà. Ils arrivent avec la personne, ou quand la personne se trouve en situation de l'exercer.
Pour les autres droits, pour comprendre la naissance, donc la source au sens de l'apparition du droit, il va falloir opérer une distinction entre ce qu'on appelle les faits juridiques et les actes juridiques. Évidemment, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qui me permet de distinguer les deux. Qu'est-ce qui fait le distinguo? Qu'est-ce qui opère la répartition entre l'acte et le fait juridique? C'est le critère. Mon schéma n'est pas clair, hein, pour le coup. Là, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ce n'est pas ma plus grande réussite. Le critère de distinction, le critère qui vous permet de départir l'acte et le fait juridique, c'est la volonté de faire produire des effets de droit. L'acte juridique, c'est l'acte volontaire que vous allez réaliser afin de produire des conséquences juridiques que vous avez voulu. Donc, il y a acte juridique quand vous avez agi afin de rechercher les connaissances, quand votre volonté s'est exprimée afin de rechercher les conséquences en droit. Je vais vous donner des exemples ensuite. À l'opposé, quand c'est un fait juridique, les conséquences juridiques ne sont pas voulues à l'origine par le sujet de droit. Donc, en gros, si je résume, c'est un acte juridique quand vous avez voulu produire les effets de droit qui vont se réaliser, c'est un fait juridique quand vous n'avez pas voulu produire les effets de droit qui vont se réaliser. Donc dans les deux cas, ça veut dire qu'il y a bien des effets de droit qui s'opèrent, mais dans le premier cas, c'est la volonté qui crée les effets de droit. Dans le deuxième, la volonté n'a pas d'incidence, et c'est le droit, la règle de droit, qui elle-même génère des effets. Sans doute que là, vous êtes paumé, je donne deux exemples pour vous expliquer. Et après, on a deux sections entièrement consacrées à ça, donc pas de panique. Premier exemple, donc pour un exemple d'acte juridique. Je garde mon exemple classique, mais parce qu'on s'en est servi tout le cours, et comme ça, ça fait une espèce de fil conducteur. Vous allez vendre votre ordinateur. Si vous vendez votre ordinateur à un camarade dans l'amphi, vous faites le choix de transférer la propriété d'un bien de votre bien à vous, de votre chose à vous, au profit de l'acheteur que vous aurez choisi. Et l'acheteur en question, lui, va choisir de récupérer la propriété en contrepartie d'un prix. On y reviendra la semaine prochaine, on en avait déjà un peu parlé, c'est ce qu'on appelle les contrats synalagmatiques, où les deux parties s'engagent mutuellement. On voit bien que dans ce cas-là, l'effet juridique, c'est le paiement d'un prix, le transfert d'une propriété, et que ce double effet transfert-paiement, il a été voulu. Il ne se produit que parce qu'il y a deux volontés qui se rencontrent pour dire, tu sais quoi, moi je te transfère la propriété et toi tu me payes. Et la rencontre de cette volonté produit un double effet de droit, un transfert de propriété, un paiement. C'est un acte juridique. Je vous explique dans le détail la semaine prochaine, mais le contrat, c'est la grande catégorie des actes juridiques. La volonté, soit individuelle dans certains cas, soit réciproque, notamment pour les contrats synalagmatiques, la volonté crée le droit. C'est parce que vous avez exprimé une volonté que la situation juridique change, produit des effets particuliers. Autre exemple. Vous avez un accident de voiture. Vous allez être responsable ou dédommagé selon que vous êtes à l'origine de l'accident de voiture ou que vous êtes la victime d'un autre conducteur. si vous êtes l'auteur de l'accident de voiture, si c'est vous qui êtes à l'origine de l'accident de voiture, vous n'avez pas cherché à produire des effets juridiques particuliers. Les effets juridiques, ils vont vous tomber dessus du fait de votre comportement. Vous ne les choisissez pas. C'est pas vous qui choisissez de dire « alors la responsabilité, elle fonctionne comme ça, la peine éventuelle sur le terrain pénal, elle peut aller jusque-là », ça s'impose à vous. Vous, vous avez juste effectué un comportement et c'est le droit à l'extérieur qui va vous dire « alors pour ce comportement, la conséquence juridique, c'est ça ». Quand bien même, je vous explique la semaine prochaine dans le détail, mais quand bien même, ce serait, encore une fois, je sais que d'apparence, le juriste se complique toujours la vie. Quand bien même, ce serait ce qu'on appelle un fait juridique volontaire. Et là, vous êtes sûrement paumé parce qu'on a dit, en fait, quand il y a volonté, c'est que c'est un acte juridique. Et maintenant, je parle de fait juridique volontaire. Attention, j'ai dit la volonté de produire des effets de droit. C'est un acte. S'il n'y a pas de volonté de produire des effets de droit, c'est un fait. Vous avez eu un accident de voiture parce qu'en fait, vous êtes volontairement rentré dans la personne. Elle a écrasé votre chat une semaine avant et pour vous venger, vous êtes rentré dans la personne. C'est volontaire. Vous n'avez pas eu un accident par négligence parce que vous vous êtes endormi au volant, vous l'avez identifié, vous l'avez repéré et vous lui avez foncé dessus. C'est un fait volontaire. Pour autant, les conséquences juridiques qui vous tomberont dessus et qui seront plus fortes encore que sur un accident dans la première hypothèse, vous ne les avez pas choisies. Elles arrivent indépendamment de vous. Votre volonté, elle s'est exprimée sur le comportement. Je vais lui rentrer dedans. Elle l'a bien cherché, il l'a bien cherché, je vais lui rentrer dedans. Votre volonté, elle s'exprime là. Mais votre volonté, elle n'est pas génératrice de droit, là. C'est le fait lui-même qui génère les conséquences juridiques. Et donc, c'est la règle de droit. Votre volonté, elle est parfaitement indifférente. Si vous avez cherché, j'en sais rien, à rentrer dans la personne... parce que vous aviez envie de passer un peu de temps en prison. On peut poser le raisonnement à terme. Est-ce que là, vous n'avez pas recherché les faits de droit ? Non. Parce que le juge, il va sanctionner de la même manière selon que vous ayez fait ça pour aller en prison ou pas. C'est la règle de droit qui déterminera les faits juridiques. Si vous avez un petit grain et que vous vouliez absolument passer un séjour en prison, ça ne changera pas l'application de la règle. C'est la même. Ça ne change rien. Sur un fait juridique, la volonté ne génère pas d'effet de droit. Si c'est un peu obscur pour l'instant, ne s'inquiète pas. Encore une fois, on va examiner dans le détail la semaine prochaine la qualification d'acte juridique d'un côté et de fait juridique de l'autre. Mais vous avez le schéma un peu général comme ça. Vous voyez où on va aller. Donc on va évidemment rentrer dans le détail de cette double catégorie. Mais gardez bien à l'esprit le distinguo qui s'opère sur pas la volonté. C'est imprécis de dire la volonté, parce qu'encore une fois, je vous oppose le fait volontaire dans la foulée et c'est plié. C'est pas la volonté qui distingue les deux. C'est la volonté de produire des effets de droit. La volonté comme élément déclencheur, générateur d'effets de droit. Et c'est ça qui change tout. Je vous laisse tranquille à la semaine prochaine. J'en entends qui sont déçus.